C'est la guerre.
Le Winterfest, concert punk rock metal par Décibel Asso, le 14 février 2026 à partir de 19h. Avec Alizarin, Terrand et Raven. Le Winterfest à Saint-Hilaire-le-Châtel pour faire trembler la campagne percheronne.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Radio Coup de Foudre, la nouvelle émission.
L'émission imparfaite avec Natas et Zing.
Ça va ou quoi?
Bah ça va bien, donc ce serait une émission, c'est votre nouveau rendez-vous, ce serait une émission basée sur le métal, les cultures underground.
Exactement.
Et on va commencer avec des interviews qu'on a rendues Motoculture 2025,
c'est
donc
ça,
cet été. Et on commence avec l'interview du groupe français Hurlement.
Sans nous soucier du destin qui nous mène à l'aventure à travers les mers ou à la potence qui nous attend à
terreur. Claquant ton vent, notre guerre est en bas. Craignez la furie des hommes qui vivent, combattent et meurent.
Nous sommes avec le groupe Hurlement. Salut les gars, comment vous allez ?
Salut, très bien. Chaudement, mais...
Chaudement. Je vous laisse vous présenter un par un.
Ouais, bah pour ceux qui sont là. Moi, c'est François, guitariste.
Du coup, je fais Didier ou pas ? On attend qu'il arrive. Donc moi, je suis Pierre, le batteur.
Et Alexis, le chanteur.
Parfait. Bon alors, comme on dit, pas trop chaud là ?
Si, si.
Si, sur scène, ça a été ?
C'était fantastique sur scène.
Ouais.
C'était...
Vous n'avez pas cuit ?
Si, mais on a aimé ça.
Ouais.
Alors, si, on a eu très chaud, mais on a mangé un peu de poussière. Mais...
Ouais, oui, bah, nous aussi.
Après, hein, écoute, on a pris notre pied quand même. Ça ne nous a pas empêché de bien nous amuser.
Ouais.
J'espère que le public aussi, ça avait l'air de...
ouais,
d'être communicatif.
Je confirme, c'était bien. C'était très bien.
Donc, on a passé un très bon moment.
Ah, bon, bah, très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la création du groupe ? Ça fait combien de temps que vous existez ?
Ouais, ça va faire une vingtaine d'années déjà.
D'accord.
Ouais, ça a commencé fin 2003.
Ok.
Donc, avec un line-up très stable, solidement ancré dans le heavy metal underground.
Ouais.
Ça a mis du temps un peu à se concrétiser, à décoller, mais ça tient la route.
Oh là, depuis, c'est plutôt bien parti là.
Depuis une vingtaine d'années déjà.
Ouais, c'est ça. Donc le line-up n'a pas bougé depuis le début.
Alors, on a juste eu une pièce rapportée qui est venue.
Qui s'est rajoutée.
Apporter un. Épaissir un peu le son avec une deuxième guitare.
Ouais.
Donc il est arrivé fin 2018.
Ok.
Sinon, depuis c'est déjà encore à nouveau assez stable. Mais le noyau dur n'a pas bougé,
ouais,
depuis,
pas bougé. Okay.
Depuis 20 ans.
Alors, particularité, c'est que vous chantez en français.
Un peu.
Un peu ? Ouais, un peu beaucoup.
50-50.
Ouais. C'était une volonté, pourquoi ? Pour que les gens comprennent les textes ou
Alors, on n'est pas allé réfléchir à ce point. On a surtout voulu faire ce qui nous plaisait.
Ouais.
Donc, étant nous-mêmes fans de la scène heavy metal française des années 80...
Ouais.
Les Sortilèges, Blasphème, H-Bomb et compagnie.
Ouais.
Il nous a toujours semblé assez naturel d'écrire, composer et chanter en français. Et en même temps, comme on est aussi des fans de heavy metal tout court, qui avons grandi avec tous les grands noms du heavy metal, on a aussi ce réflexe de chanter et d'écrire en anglais. Mmh. Donc on s'est dit qu'on n'allait rien s'interdire. Donc sur nos albums, vous trouverez... Des morceaux en français et en anglais.
Ok.
Sans plus de réflexion que ça. C'est juste parce qu'on fait ce qui nous plaît.
Alors, tu parlais d'albums, vous en avez sorti 3.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un quatrième en préparation ?
Oui, oui, oui. Il est en cours de gestation. Il est enregistré. Il est en cours de mix.
D'accord.
Ça prend beaucoup de temps parce que ça fait des allers-retours entre le studio, entre. Nos retours, etc. Donc, on prend un peu de temps pour le faire, mais on veut que les choses soient plutôt bien. On espère pouvoir le sortir en début d'année prochaine.
D'accord. Ouais, donc ça devrait aller assez vite quand même, quoi.
Oui, tout est relatif.
Non.
Ça prendra le temps qu'il faudra.
Ouais.
On veut être content de ce qu'on propose. Hein, donc.
C'est ça. Ah bah oui, parce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés à la table.
Présente-toi.
Le Gorg, bassiste.
Moi, c'est toujours Pierre, toujours la batterie.
Et Cédric à la guitare.
Ok. Alors,
c'est la pièce rapportée, celui-là.
C'est celui-là, c'est ce que j'allais te dire.
Ah oui, d'accord. Vous avez parlé de moi déjà, c'est
ça ? Il a parlé de toi déjà, ouais.
On a dit plein de mal, c'est bon.
Ouais, justement, c'est ça.
Tu vois, il ne me laisse pas parler. Mais
ouais.
Gros.
C'est ouais, il y en a un qui suit.
Alors, on ne sait plus trop sur les comptes 2018, c'est bon ? Donc, je ne peux plus raconter n'importe quoi. Donc, bah, allez, disons 2018. 7 ans, alors. 7 ans. Allez. Il faudrait retrouver la date de Blaise Bellet.
Moi, je me disais, putain, il se souvient de l'année et tout.
Par déduction, Blaise Bellet, c'était 2019. Ah, son premier concert avec
nous. Non, mais je suis arrivé peu de temps avant. Je pense que je suis arrivé la même année. T'as l'impression que j'avais passé un an déjà dans le groupe, mais j'avais passé que 3 mois. Moi, ça m'a paru trop court.
Alors, l'intégration dans un groupe qui était déjà formé depuis assez longtemps, ça s'est bien passé ? Ça n'a pas été compliqué ?
Non, très mal en fait.
Très mal.
Ils sont tous odieux dans
c'est
ce
vrai.
Groupe.
Bah, ça a l'air.
Et en fait, ils m'attachent. Je suis attaché tous les jours, sinon je me serais réparé. Depuis...
Sauf sur scène, a priori ?
Ouais, sauf sur ouais. scène. Non, non.
Et encore, on lui a mis un fil.
Ça se voyait pas. Je suis attaché avec un nylon à chaque fois.
Quand
non, non.
Mourir,
ça, j'ai appris avec vous à manger. Non, non, c'est un groupe qui humainement est au top et
ouais.
du coup ça a été hyper facile. Pour l'anecdote, enfin François a l'impression que j'étais là longtemps avant le concert de Blaise Bellet, mais j'ai eu très peu de temps pour me préparer et une semaine avant je leur avais dit écoutez les gars, ça fait longtemps que vous jouez sans deuxième guitariste, moi je suis pas prêt, je ferai pas cette date là. Didier m'a dit bah non, maintenant que t'es dans le groupe, tu joues quoi. Moi, j'ai passé une semaine à faire que ça. J'avais déjà passé 3 mois à faire que ça, mais du coup, voilà. Il y a eu un petit coup de pression et ça s'est pas trop, trop mal passé.
Et on a fini à l'heure.
Et on a fini à l'heure, ce qui a été très important pour ce concert.
Ouais, parce que ça va être une grosse première partie, quoi.
Non, non, c'était une blague.
Ah, ok, d'accord.
Ils étaient très attachés à la ponctualité. Ils nous l'ont beaucoup répété dans la journée et ça nous a beaucoup fait rire. Donc, à chaque fois qu'on parle de ce concert, on parle de ponctualité.
Vous avez fini
c'est
à l'heure,
ça,
ok.
C'est ça. Et ils nous ont remercié à la fin parce qu'on était très ponctuels et très pro. Très pro dans la ponctualité.
En fait, pendant les six premières heures de la journée, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un de l'équipe, ils nous disaient surtout soyez à l'heure. Donc au bout d'un moment, ça nous a vraiment beaucoup fait rire. Et voilà, c'est resté.
D'accord. On va parler un petit peu des thèmes que vous abordez. Qui écrit les textes ?
C'est moitié-moitié.
D'accord.
Certains morceaux sont écrits par François, souvent les morceaux en français.
Ouais.
Il y a eu des exceptions. Mais Et les morceaux en anglais, c'est moi.
Ok.
Donc on est entre les deux.
Ok.
C'est soit l'un, soit l'autre. Et quand c'est ses morceaux à lui, je rajoute toujours un peu des arrangements quand je fais mes lignes vocales. Mais c'est... un coup l'un, un coup l'autre.
Okay.
Et puis on se connaît assez, ça fonctionne.
Ouais, ça, la chimie fonctionne assez pour...
Voilà. On a trouvé notre truc.
Et donc les thèmes, c'est... moi j'ai remarqué beaucoup de choses sur le thème de la guerre, les pirates aussi, pas mal.
Bah, c'est parce que les fleurs et les poneys, ça marche moins bien dans le heavy metal.
Ah, je suis sûr que ça peut marcher.
Mais non, c'est... voilà. Comme on est trop faible pour se bagarrer dans la vraie vie, on le fait dans nos morceaux.
Vous le faites métaphoriquement,
pour,
quoi.
Pour compenser. Voilà.
Mais c'est des textes qui demandent de la recherche historique ou c'est vraiment juste de l'inspiration
Tu veux te vanter un peu ?
Faut toujours se vanter.
Alors déjà, le fait d'aborder des thèmes historiques dans le heavy metal, c'est quelque chose qui est venu extrêmement naturellement parce que c'est. Moi, c'est un truc qui, gamin, m'a plu dans le heavy metal.
Ouais.
Quand j'ai écouté des morceaux de Maiden,
ouais.
Ace's Eyes, The Trooper et tout, c'est quelque chose de, y a quelque chose d'épique qu'on retrouve dans les périodes historiques. Donc ça, c'est quelque chose là aussi qui m'est venu en tant que fan de heavy metal. Quand j'ai voulu écrire des chansons, ça m'est venu assez naturellement. Bon, il se trouve que je suis prof d'histoire aussi, donc...
ça doit aider un peu.
Ça aide un petit peu. Mais c'est venu assez naturellement. Après, tous les morceaux n'ont pas forcément des thèmes historiques.
Ouais.
Mais parfois, il suffit qu'il y ait une lecture ou autre qui donne envie, quelque chose qui touche, tu sens une fibre un peu épique et que t'as envie de... Tu sens que ça ferait une bonne chanson, que ça... Ah oui, qui en doutait.
Bon, eh ben très bien. Une petite question ?
Elles sont passées, les questions.
Elles sont passées, bon bah voilà. Eh ben, merci beaucoup.
Ouais, merci à vous.
Hein. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est l'émission parfaite, toujours. Et franchement, hurlement sur scène, c'est incroyable.
Alors, on espère que vous allez devenir rapidement fan de notre émission, parce que nous, on va se donner du mal pour vous. On va vous ramener une émission toutes les semaines.
C'est ça. Puis ça fait 2 ans à peu près qu'on fait cette émission.
C'est
déjà,
ça. Donc, on est content d'être diffusé chez vous, sur votre antenne de Radio Coup de Foudre.
Nous, ça nous fait plaisir, en tout cas.
Ouais, carrément, carrément. Merci à l'équipe de nous avoir proposé et donné ce petit créneau du lundi soir.
Et on enchaîne
avec Sublime Cadavérique Décomposition.
Et merci de nous recevoir.
Et ben, c'est un plaisir.
Pour ce nouveau motoculteur.
Exactement. Bon, comment vas-tu après ce concert en pleine chaleur?
Eh ben écoute, c'est un plaisir là, c'est encore un gros fest cet été là avec la sortie de l'album. Bah c'est super cool de pouvoir partager ça avec un maximum de monde, donc Motocultor, au moins 3/4e fois là qu'on y joue, c'est toujours un plaisir, nous on se régale. Hein.
Ouais, surtout que là c'était pas prévu.
Non, ça s'est ajouté, nous on a été prévenus il y a 1 ou 2 semaines, bah, pour remplacer Rectal Smegma qui n'a pas pu venir.
Ouais.
Et bah, du coup, ça a complété. Là, on avait quelques bons festivals cet été avec le Hopsen République Tchèque, le Inflamen en Allemagne, le Vagos au Portugal.
Okay.
Et ben bah, voilà, ça nous fait le Motocultor en France pour enchaîner cette petite série d'été.
Ah bah ça fait toujours plaisir.
Ah bah c'est impeccable.
Alors tu parlais du nouvel album, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Bah ouais, donc nouvel album qui est sorti. Alors on avait changé par rapport aux albums précédents, on avait voulu prendre plusieurs labels. Donc bah, un album qui est sorti sur Self-Made God pour l'Europe et les États-Unis.
D'accord.
Chez Brutal Mind pour l'Asie.
Ouais.
Les t-shirts qui sont sortis aussi chez Season of Mist,
okay.
Qui sont sortis aussi en Chine sur Zen Wardrobe. Mm-hmm. Donc en fait, ce qu'on voit bien quand on est fan et qu'on achète du merchandising, quand on l'achète aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, chaque fois entre les frais de port, les frais de douane, c'est compliqué et même pour des raisons un peu écologiques aussi, le fait d'essayer de produire dans chaque région pour distribuer sur un circuit plus court, on avait envie d'essayer de voir si on pouvait pas prendre plusieurs labels pour avoir ces distributions un peu par zone géographique et aussi zone commerciale où il n'y a pas de taxes et de douanes.
Okay.
C'est ce qu'on a fait pour cet album là qui est sorti donc vraiment très largement distribué.
Ouais.
Et on se régale du coup à pouvoir faire des fests finalement pas longtemps après la sortie de l'album, hein, puisqu'il est sorti je crois en avril-mai.
Oui, c'est ça.
Et ça y est, c'est reparti maintenant pour faire un maximum de concerts, de festivals, de tournées, quoi.
Bon, bah c'est cool ça. C'est pas trop compliqué justement de gérer autant de labels
On s'est posé la question parce qu'en fait, j'ai eu cette idée, surtout je te dis comme fan quand j'achète et à chaque fois que je fais, c'est pas possible quand même, c'est complètement con. Mais j'étais pas sûr parce que souvent les labels ils demandent l'exclusivité mondiale.
Ouais.
Donc j'étais pas sûr de réussir à faire en sorte que les labels soient d'accord avec le principe. Même pour les t-shirts, le fait d'avoir aussi des techniques d'impression qui ont évolué avec les années,
ouais,
puisque maintenant. Le print on demand, ça permet aussi d'avoir, au lieu d'avoir des films pour faire couleur par couleur, le fait d'avoir le direct to garment, donc d'imprimer directement, ça permet d'avoir moins de consommation d'eau pour l'impression, moins de stock pour les différents distributeurs. Mais c'était une idée de départ qu'on avait eue quand on a fini de faire l'album en décembre. On avait fait un premier mixage, on n'avait pas terminé complètement, j'ai contacté les labels avec cette idée-là, en disant je sais que c'est un peu hors de ce qu'on fait habituellement, mais est-ce que vous êtes OK sur le principe?
Ouais.
Et on a eu la bonne surprise que les différents labels qu'on avait contactés étaient OK sur le principe, et du coup on est parti comme
tout le monde est suivi donc.
Après une fois que c'est mis en place, la gestion elle est pas plus compliquée, quoi.
Ouais. OK, super. Marc, une petite question?
Au niveau des questions
Vas-y.
Métal, quoi, donc,
Moi j'en ai encore une. Le groupe existe maintenant depuis
29 ans.
Pas mal de temps, ouais. 29 ans. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai acheté le premier album à l'époque où il est sorti.
Ouais.
Est-ce que tu as vu la scène métal française évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens?
Moi je dirais dans le bon sens globalement.
Ouais.
Parce que c'est vrai que quand on se replonge sur cette période-là, c'est vrai que tout a changé. Hein.
Ouais.
Y a 29 ans, Internet s'y était quasiment pas. Les festivals, les concerts, on le faisait par courrier papier. Hein.
C'est ça.
Le
tape trading.
Donc tout était complètement différent. Moi je me souviens, il y a 29 ans, surtout dans le Death Grind, dans le Death ça passait en France,
ouais.
Dans le Grindcore. On allait souvent en Belgique, en Allemagne, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en France.
Ouais, la scène était plus là-bas.
On avait un très bon public, on n'avait pas des gros festivals comme il y a aujourd'hui, et on en a beaucoup en France. Donc on avait une très bonne scène, on n'avait pas tant de groupes que ça. Il y a beaucoup de groupes qui sont imposés sur la scène dans tous les styles. Des gros festivals qui sont devenus des références mondiales.
Ouais.
Quand on regarde même, si on se replonge des années début des années 90, même les gros groupes de death metal qui tournaient, quand on regarde les salles dans lesquelles ils jouaient, le nombre de personnes et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est spectaculaire,
c'est
quoi, l'augmentation. Donc en fait, quand on le vit au quotidien comme ça, comme quand on est fan ou quand on est groupe, comme ça se fait sur une longue période, on oublie un peu à quel point ça évolue.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est hallucinant, le nombre de festivals dans le monde, le public qu'il y a partout, l'accueil qu'il y a, et le fait même pour des styles qui étaient quand même ultra extrême dans les débuts des années 90, ouais. Qui n'étaient pas sur des gros festivals où il y avait comme ça un peu de différents styles de musique. Les gros festivals, c'était vraiment que des trucs spécialisés. Ça s'est quand même vachement développé et c'est quand même un vrai plaisir et un développement de la scène qu'on ne peut pas mettre de côté comme ça.
Ouais,
quoi.
Forcément. Alors, tu parlais justement de début de la scène. Sublime Cadavérique, c'est né comment en fait ? Comment c'est venu cette volonté de faire du grind ?
Bah, en fait, on était pas mal de potes sur Paris à aller en concert. On se croisait, on s'est connus beaucoup sur les différents concerts qu'il y avait sur Paris parce qu'il y avait beaucoup de groupes qui passaient.
Ouais.
Il y avait aussi des squats métal à Paris parce que début des années 90, il y avait des spots à Paris avec différents groupes de personnes. Il y avait des punks d'un côté, les métalleux de l'autre. Ouais. Et en fait, le groupe il s'est fait avec des potes, quand on s'était rencontrés quand on était gamin, dans les différents spots métalleux, dans les concerts. Et c'est le batteur et le guitariste de l'époque, Yov et Bruno,
ouais.
Moi j'étais pote avec eux, surtout Bruno depuis de nombreuses années, qu'on fait Sublime ensemble. Ils ont monté le groupe tous les deux. Donc Bruno m'avait demandé de venir chanter dans le groupe au début.
Mmh.
Oh, j'étais pas forcément, j'avais pas ça comme objectif parce que moi j'allais au concert pour slammer, comme fan, mais je m'étais pas mis ça comme objectif. Comme je dessinais pas mal, il m'avait demandé de faire le logo, donc j'avais fait le logo du groupe.
Okay.
Ils avaient fait aussi Antaeus dans Black Metal à côté, oui. Tous les deux ensemble, où j'avais fait le logo d'Antaeus aussi. Et puis au bout de 3 mois, ils m'ont convaincu de venir en répète. Je me suis dit, de toute façon, c'est les potes, on va y aller. Et puis, sans penser que 29 ans après,
ça serait toujours là, quoi.
Exactement, on prenait le goût de grogner et qu'on n'arrête pas, quoi.
Et justement, le fait d'avoir cette voix-là sur scène, c'est venu naturellement ou ça t'a demandé beaucoup de travail ?
Alors, c'est naturel et pas naturel. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être dans le groupe, moi, j'écoutais les albums, je chantais dessus,
par-dessus.
En les écoutant, ouais. En faisant les voix, mais qui étaient sans micro. Okay. Et ça change beaucoup, en fait, quand tu vas en répète et que tu prends un micro.
Ouais.
Ça te fait pas du tout la même chose. Et du coup, il y a quand même une adaptation quand tu commences à le faire comme ça. À retrouver la voix que tu faisais sans micro, mmh. À retrouver quelque chose qui marche bien avec micro. Et puis après de développer un peu force de faire des répètes, de découvrir un peu sa voix et comment la moduler,
ouais.
Avec des voix soufflées, des voix aspirées, mmh. des voix aiguës, des voix et puis de regarder après il y a toutes les influences des groupes qu'on aime bien, quoi.
Bien sûr.
Forcément à la base moi j'écoutais du thrash, du death,
ouais.
Du crust, du grind évidemment, et c'est un peu ce mélange de tout ça, toutes les influences où quand tu commences à faire un groupe, tu as un peu toutes ces influences qui se mélangent,
ouais.
Et à trouver dans quelle direction tu vas aller. Et en faisant un peu différents essais, de moduler tout ça et de voir ce qui te correspond le mieux,
mmh.
Et là où tu es finalement plus dans ton identité vocale et de ce que tu aimes faire. C'est les répètes et le fait de surtout. De commencer un groupe avec des potes sans forcément avoir ambition de quoi que ce soit,
mmh.
De prendre le temps du coup de travailler tout ça, que ça se développe et puis qu'il y ait les choses qui aboutissent au fur et à mesure, quoi.
Ouais, là ça a bien abouti quand même.
Bah oui.
J'ai enfin une question, parce qu'après je découvre en même temps le groupe, je suis le petit puceau de l'émission, vraiment le monde de métal c'est de base c'est pas pour moi, je suis plus dans le rock. Donc tu disais donc 29 ans,
ouais.
Vous existez encore combien de temps?
Je te dis, je pense qu'on est à la moitié.
La moitié, encore 30 ans et encore une bonne trentaine d'années derrière.
Trentaine, voilà.
Donc avec 10,
alors, honnêtement, 15, là, après c'est toujours compliqué parce que aujourd'hui, moi j'ai 51 ans, franchement je me sens pas différent de quand j'avais 20 ans, quoi.
Toujours la même passion.
Oui, alors ça complètement. Toujours l'envie de le faire et de m'éclater à le faire. J'ai pas de fatigue physique ou machin. On en parle avec Necro là, qui m'accompagne, qui est un pote aussi, où on se connaît depuis qu'on est gamin, même époque où on a formé le groupe et puis on se rencontrait sur les festivals, etc. Là, on se dit, tiens, 51 ans, à un moment, on va continuer à faire notre équilibre, à faire tout ça. Et puis, pourquoi pas à la retraite, continuer à faire ça pour le plaisir maximum et peut-être encore plus, quoi. Après, c'est compliqué parce qu'en 29 ans, tu vois aussi tout ce qui se passe dans la vie d'un groupe. Tu as les changements de line-up. Parce que tu as des fois, surtout quand tu commences quand tu es jeune, tu as le boulot, tu as les familles, Tu vas avoir les goûts musicaux qui peuvent varier, enfin la vie qui fait que ça change. Plein de choses, tu vois. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, c'était au Hellfest en 2022 ou 2021, je sais plus, un truc comme ça. Et j'avais dit, bah pareil, encore 30 ans, je vois pas pourquoi j'arrêterais, il n'y a aucune raison. Et puis après, t'as le Covid, et puis tu vois que ça rechange des trucs. Le line-up a changé aussi à ce moment-là, parce que le guitariste, du coup, a changé de direction professionnelle aussi. Donc aujourd'hui, moi je te dis, j'ai aucune intention d'arrêter. Je prépare d'ailleurs déjà le prochain album, tranquillement. Voilà. Mais après, la vie fait qu'en 29 ans, si je me donne encore une trentaine d'années, on verra bien si on en reparle dans 30 ans.
Quoi. Oui, bah, oui. Et que tu disais, donc du coup, avec ton pote, vous faisiez les festivals ensemble au départ, avant la création du groupe. Ça vous fait quoi d'être sur scène, d'avoir inversé un peu le... Vous n'êtes plus dans le public, vous êtes sur la scène, et ça vous fait quoi? Pour vous, c'est accompli, mission accomplie?
Alors, t'as plein de trucs là-dedans, parce qu'en fait...
C'est vaste. Hein,
alors, et toujours, c'est très bien, je trouve, de le faire sur la durée, et que petit à petit, le groupe commence à exister. Tu fais des petits concerts, puis des plus gros. Le Motocultor, faire des festivals de cette taille-là. Si tu commences un groupe et que du jour au lendemain, tu es propulsé là, à mon avis, c'est quand même compliqué, même dans la tête.
Ouais.
Quand tu le fais progressivement, en te disant, génial, on va faire un groupe, ce sera une pierre dans l'édifice de la musique qu'on adore, et puis ça ira pas forcément plus loin, et que petit à petit, le truc continue, grossit, se développe, en fait, c'est petit à petit où les barrières et les étapes évoluent, quoi. Après, je me rappelle plus exactement ta question. C'était.
Okay, c'est sur.
Ah oui, changer de côté.
Ça, ne plus être un festivalier.
Alors, il y a un truc qui change aussi beaucoup. C'est quand tu commences à jouer avec des groupes dont tu es fan. Ça, c'est vrai qu'à un moment, tu te fais. C'est hallucinant, parce que partager la scène, pouvoir les voir en backstage, discuter, voir les points communs aussi, parce que l'histoire, elle est souvent un peu les mêmes pour plein de groupes. C'est vrai que c'est. C'est un truc où tu te dis, putain, ça c'est génial de l'avoir vécu déjà, quoi. Après, tu deviens gourmand, plus t'en fais, quoi. Et puis en plus, tu t'habitues aussi à plein de choses. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça que t'évolues. Quand tu fais un concert au début, que tu commences un groupe et qu'il y a 100 personnes, c'est un gros truc, quoi. Quand tu commences à faire 500, et puis quand tu fais des milliers et des très gros fests, c'est encore une autre étape. Donc tout ça, ça te change un peu ta vision, ça te change aussi tes habitudes. C'est aussi une aisance que tu apprends à avoir aussi sur les différentes scènes, parce que c'est pas la même chose de jouer dans des salles dans le noir le soir, oui, que de jouer en journée sur des festes avec du monde. Tu prends tes marques et tes habitudes dessus, puis tu prends le plaisir de le faire aussi à chaque fois de la même façon, quoi. Mais c'est vrai que c'est différent que d'être dans le public, même si honnêtement, moi je continue à le faire aussi. Il y a plein de festivals où je continue à aller en public, même si je joue pas. Hein.
D'accord. Donc du coup, pour un jeune groupe,
ouais,
tu conseilles d'y aller tranquillement et prendre ses marques, s'entraîner, faire des,
ouais,
premières petites scènes avant de, par exemple, comme tu disais, on est un super groupe, au bout de 6 mois, paf, Motocultor, quoi.
Moi, si tu veux, même si un groupe qui commencerait, il pourrait avoir discuté des fois avec des groupes comme ça dans les backstage. C'est surtout se mettre les bons objectifs de pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on en attend. Si tu le fais en disant... Moi, j'ai vu des groupes qui commencent en se disant « Allez, on se donne 2-3 ans pour arriver à tel niveau. » Et sinon, à un moment, s'ils ne l'atteignent pas, ils ne sont pas satisfaits, ça ne marche pas. Pour moi, ce n'est pas ça, en fait. Moi, mon objectif dès le début, ça a été de prendre plaisir déjà à faire ce qu'on a la chance de pouvoir faire au stade où on en est, et d'essayer de le faire le plus longtemps possible. Parce qu'à un moment, le but, c'est d'en profiter le plus longtemps possible et pas forcément de décrocher je sais pas quoi. Si tu cours après ça, tu peux être que déçu plutôt que d'être satisfait par ce que tu fais, quoi.
C'est ça. Après, il y a beaucoup de groupes comme ça. Il y a beaucoup de groupes qui veulent le Saint Graal en à peine un an.
Surtout, est-ce que c'est ça le Saint Graal, quoi?
Non,
est-ce que le Saint Graal, c'est d'arriver à être, ouais, je sais pas quoi, signer, faire des tournées? Ou est-ce que c'est de s'inscrire dans un truc, de faire des albums dont on est content, de peut-être se mettre des objectifs, de dire « J'adorerais à un moment faire un album qui soit aussi bien que les albums que j'adore. » Ça, c'est un objectif qui est très motivant et qui peut t'accompagner toute ta carrière. Et le fait de se dire « Si ça me plaît en fait de faire ça, mon but, c'est de le faire tout le temps. » Alors, pas forcément à plein temps, c'est aussi trouver, parce que chacun n'attend pas la même chose. Et ce que je veux, c'est un équilibre entre une vie à côté, une stabilité, et puis la musique de l'autre côté pour le plaisir, et pas avoir les contraintes de me dire bah, j'ai besoin que la musique me permette d'en vivre. Ou est-ce que je veux vraiment que mon objectif, ce soit bah, de faire que ça. Ça dépend des personnes. Moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir un équilibre entre une vie à côté qui m'apporte la stabilité et que ce soit aucune contrainte et que du plaisir de faire ça et le plus longtemps possible pour ça, quoi.
Eh ben, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Et puis, en espérant vous revoir rapidement sur un autre fest ou ailleurs.
Eh ben, écoute, je ne demande que ça.
Et ben, voilà.
Merci aussi à tous les auditeurs, à tous ceux qui sont venus au fest et puis au plaisir de se recroiser.
Eh ben, ça marche. À bientôt.
Allez, à plus. It's a devil's master of hell. I'm all the only person places. Look at the infancy of the empire. Those are standards, I'll destroy all cells. Let's attack with all the last of the blue. Save all the guns of the stretches. Use a lot of rats, set a mask on post. I'll take your depths to my dreads instead. Sorry, Gordon, it's a bloody story. The abyss of this type of thought that we've drawn. The grave of your decana. To the master that was passed by the ashes. I've been thinking of death as a great dragon. It's gathered to the land of fire.
Charbonne, franchement, Motoculteur 2025, incroyable.
Ah, on vous a promis du métal, vous avez du métal.
C'est ça. Nous, bah, pour la première émission chez vous, la Radio Coup de Foudre, j'espère que vous kiffez, parce que nous, oui.
Ouais, on avait bien kiffé faire ces interviews l'été dernier. Et là, ça va être une grosse, grosse claque dans votre tête. Moi, c'est mon avis monstrueuse. Le groupe français de black metal, mais black metal un peu atmosphérique. Enfin, voilà, c'est un truc de barjo à voir sur scène, c'est ouf.
Et au chant, c'est une nana.
Ouais, c'est une meuf qui chante. Ça s'appelle Oul. Écoutez bien, il y a l'interview qui suit. Yeah.
les flammes s'affaiblissent après nous avoir éblouis. Le silence fait saisissant. Après avoir percé ce cri, le navire, c'est un colosse d'acier, nous a fait taire qu'un simplement.
Nous sommes avec le batteur et la chanteuse de Hull. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Ça.
Bon, je vous laisse vous présenter.
Je suis Visser, je suis le batteur de Hull.
Moi je suis Kaffer, je suis la chanteuse.
Alors Hull, c'est un projet qui est né il y a combien de temps maintenant?
C'est-à-dire que Hull, tel qu'il existe là, c'est un projet qui existe depuis 2021. Qui était un peu dans on dirait le projet de rêve de Kram, on va dire, qu'il a un peu gardé, genre je crois qu'il a dû avoir la première fois l'idée du groupe, genre je pense en 2016 je croyais à peu près, et en fait en 2020 on s'est tous rencontrés et là on a commencé à bûcher vraiment sur le premier EP.
Ouais.
Donc voilà, c'est, globalement, Hull, c'est 4 ans, pour l'instant c'est 4 ans, on va dire, d'aventure tous ensemble, quoi.
Alors vous définissez votre projet comme du métal noir marin, c'est quoi le concept derrière ça? Parce que nous on vous a vu sur scène, mais pour ceux qui ne vous a pas encore vu, qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Alors dans ce nom-là, il y a plusieurs références. Alors déjà métal noir, black metal, ouais. Évidemment. Marin, parce que l'attrait du groupe pour la mer, l'océan et surtout la relation qu'a l'homme avec l'océan. Mm-hmm. Et métal noir marin, c'est aussi une référence au métal noir québécois.
D'accord.
Le nom du style, en fait, qui est un style de black metal qu'on écoute beaucoup, nous, de notre côté, et qui est une influence, sans souci, de Hull, hein, avec Forteresse en tête de ligne. Et du coup, c'était à la base une façon de catégoriser ce qu'on faisait. C'était partait presque d'une blague à la base. Et en fait, on se dit non, métal noir marin, en fait, ça sonne très bien. Mm-hmm. Et ça prend, ça marque. Et c'est pour ça qu'on en a fait les t-shirts avec les visuels, avec la lanterne, en fait. Okay. Parce que c'est marquant. Ça signifie très bien ce qu'on fait. Et la dernière référence aussi, métal noir marin, plutôt que dire black metal, bah, en fait, on chante en français.
Ouais.
Donc, métal noir marin.
C'est métal noir, ok. Donc, nous, vous avions en concert tout à l'heure. Et comme on en parlait un petit peu avant l'interview, même sur scène. Tout le concept est développé en fait, que ce soit dans les tenues, dans les décors. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé assez longtemps.
Ouais, le vrai objectif, c'était de prendre ce thème-là et en fait de tout contaminer avec. C'est-à-dire okay. que pour nous, un projet comme ça, ça doit être... Faut l'assumer jusqu'au bout, mm-hmm. parce que sinon, en fait, tu l'abordes, tu ne l'effleures que, en fait. C'est pas suffisamment intéressant. Donc là, le but du jeu, c'était de dire, ben voilà, on a la musique, ben en fait, les visuels, ils doivent être raccord, la scénographie, elle doit être raccord. Je perds ma prononciation en discutant. Ouais, bon, ça fait 4 ans. Hein. Je sais plus ce que je disais.
Je
sais
plus c'était quoi la question. Ça fait 4
ans. Ah oui, et ouais, du coup, ça a été vraiment le but de tirer en fait tout ça jusqu'à la scénographie, les tenues de scène, les photos live. C'est complètement assuré. Les thèmes abordés, et même dans le début de l'album, le chant de marin ouais. À Nantes vient d'arriver. On s'est dit on y va à fond parce qu'en fait il y a une vraie atmosphère à construire et en fait tu peux pas y aller juste à
ouais,
moitié.
Ouais, faut aller jusqu'au bout du truc quoi. Alors c'est pas compliqué justement quand on développe un univers comme ça, très sombre, très maritime, de jouer en plein soleil comme cet après-midi.
C'était un enfer. Ah non, vraiment, je pense que c'était le concert le plus dur qu'on ait fait.
Ah ouais.
Pas du tout, les conditions d'accueil technique, etc. Genre vraiment en motoculteur oui. au top, y a pas de soucis. C'est vraiment qu'en fait physiquement c'était très dur parce ouais. que 13h on avait le soleil en plein dans la tronche, mmh. la scène était littéralement au soleil et en fait je pense qu'on devait avoir un ressenti de 40 degrés sur scène, tu vois,
ouais,
à bouger, etc. En fait vraiment on était extrêmement mal, en plus du coup nous on a des kawés.
Ouais bah oui.
Je cache pas qu'on a été, on est tous sortis de là. On n'était pas bien du tout. Après, on a quand même kiffé notre concert parce que le public était fou.
Ouais, le public a bien répondu.
Et en fait,
ouais.
tout simplement aussi. En tout cas, le public aussi était en plein soleil. Mmh. Et plusieurs fois dans le show, je me suis dit, putain, mais je sais ce que je suis en train d'endurer là. Et tu vois, et les gens qui pogotent, qui font des circle pits à 13h, les gens qui sont juste aussi calmes debout. Et tu sais qu'ils douillent quand même un peu aussi, tu vois. Mmh. Et vraiment, moi, à un moment, j'ai eu ce truc-là de me dire, putain, mais moi, je suis obligé d'endurer ça, pourquoi vous faites ça, vous? Genre vraiment, mets-toi à l'ombre, quoi. Genre vraiment, mets-toi à l'ombre. Je sais pas, qu'est-ce que vous prenez, mets-toi à l'ombre. Ouais, non, vraiment, c'était très dur comme
quoi.
Show. C'était très, très dur comme show.
Bon. Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain album ou est-ce que vraiment vous défendez encore celui-là assez longtemps?
Alors le but du jeu, c'est qu'on le défende encore à minima l'année prochaine.
D'accord.
Là, on l'a déjà bien défendu avec la tournée de... Je ne sais pas si j'ai déjà dit ici ou pas.
On en parlait avant, mais tu ne l'as pas dit là. Ouais.
On l'a déjà défendu pendant 3 semaines avec la tournée qu'on a fait avec Grima en Europe. On va continuer à le défendre pendant 2 semaines... en Europe du Sud-Est avec Batushka.
D'accord.
Et 2026 va continuer à être là-dessus. On souhaite vraiment continuer à jouer cet album le plus possible. On va peut-être commencer à changer un peu la setlist parce que là on a beaucoup joué l'album.
Ouais.
On va peut-être réintégrer des chansons de l'EP parce que ça nous a été demandé par certaines personnes et même nous c'est des chansons qu'on apprécie énormément. Mmh. Donc on a aussi envie de les faire revenir et de faire un peu tourner la setlist, quoi.
Ouais.
Et du coup ça c'est le court terme, on va dire. Long terme, on a déjà le prochain album qui est en cours de composition. On est déjà dedans, on a identifié les thèmes forts qu'on veut aborder. Les compositions s'avancent tranquillement et on aimerait lancer la production de l'album dans les temps qui viennent pour que projeter potentiellement une sortie en 27. Voilà.
D'accord.
C'est sorti vraiment avec... faut vraiment prendre une fourchette maximale. Hein, mais voilà, globalement, c'est un peu ça le
l'objectif.
Planning, quoi.
Ouais. Ok. Eh ben merci beaucoup.
Ouais, merci à vous.
On va vous laisser aller vous reposer.
Merci à vous.
pleut.
Bah, c'est la Bretagne. Non, il y a du vent. C'est la Bretagne.
Vent, voilà, c'est ça. Incroyable.
Ouais, la Bretagne, la Bretagne.
Ils ont fait des super festoches là-bas.
Ben ouais. Bon, allez, voilà, c'est déjà la fin de la première émission.
C'est ça, puis on vous revoit.
On vous dit la semaine prochaine. Et puis, bah, écoutez bien le petit jingle que vous avez eu déjà au début. C'est pour le Winterfest le 14 février. Et en attendant, bah, bonne bourre.
C'est la guerre.
Le Winterfest, concert punk rock metal par Décibel Asso, le 14 février 2026 à partir de 19h. Avec Alizarine, Terrand et Raven. Le Winterfest à Saint-Hilaire-le-Châtel pour faire trembler la campagne percheronne. Watch your free flow.